Est-ce une véritable session de rattrapage que s'est offert Emmanuel Macron mercredi soir sur France 2? Une heure d'interview pour montrer quoi aux Français, Gérard Carrère, qu'il tient le cap?
Non, pour montrer que le président de la République, de ce point de vue, est fidèle à lui-même. Il était dans le déni sur le problème de la sécurité et de l'immigration. Eh bien là, c'était le déni confirmé, on pourrait même dire que c'était le grand déni. Alors d'abord, il a fallu attendre, si j'ai bien regardé mes notes, la page 6 et 7 de mes notes, c'est-à-dire la fin de l'émission, pour qu'on aborde ce sujet, alors qu'il avait dominé l'actualité des derniers jours qui précédaient l'intervention. Enfin, peu importe, le moment n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est effectivement ce qu'il a dit. Il a, et cette phrase, alors là vraiment cette phrase sur « il n'y a pas le lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité ». Alors d'abord existentiel, moi je veux bien que, comme dirait Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Mais enfin, il y a un, pour tous les Français qui vivent en France, qui vont dans les rues de France, de toutes les villes, ils voient chaque jour qu'il y a un lien évident. Entre, et pourquoi ce lien? Ce n'est pas une question de race ou de racisme, c'est une question de nombre. À partir du moment où on a laissé s'installer des flux incontrôlés de centaines de milliers d'illégaux, le nombre, comme dirait Zemmour, il a raison sur ce point, le nombre, la loi du nombre s'exerce. Et dans ces centaines de milliers de gens qui viennent, qui sont, c'est vrai, pour la plupart d'un autre monde, d'une autre civilisation, qui sont sans moyens d'existence, pour beaucoup d'entre eux, évidemment, le pourcentage de délinquants est extraordinairement élevé, ce que confirme tous les chiffres du ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, M. Darmanin, plus de 50% à Paris, des taux astronomiques dans un certain nombre de villes, de grandes villes et de moyennes villes de France. Donc je dis que ne pas faire le lien et refuser en disant « jamais je ferai le lien », c'est être dans le grand déni et confirmer que ces problèmes sont l'angle mort du premier quinquennat et déjà maintenant du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
La parole est à la défense.
Oui. Il parle Michel aussi, Cotin. Pardon, mais tout à fait après cette phrase, effectivement, sur le lien existentiel entre l'immigration et la sécurité, qui est au fond quelque chose de bien pensant que tout le monde dit sans oser effectivement dire. Ce qu'il dit dans une deuxième partie, c'est que l'immigration illégale est présente dans la délinquance pour la moitié.
Oui.
Donc la moitié des faits, donc il le dit, il le reconnaît, la moitié des faits de la délinquance sont relevés et viennent et proviennent d'étrangers.
Donc il y a bien un lien existentiel
voilà.
Entre
donc,
lui
et... Ça veut dire qu'il dit une chose et son contraire.
Non, oui, ça veut dire que dans un premier temps, il dit il n'y a pas de lien existentiel entre, mettons, l'islam et l'insécurité. En revanche, il y a un lien tout à fait qu'il décrit entre les pourcentages.
Je trouvais qu'il n'a pas nié la réalité.
Mais moi non plus, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire.
Un délit sur deux, notamment à Paris, est commis par un immigré, il l'a admis. C'est vrai, Gérard.
Il a répété ce qu'avait dit Darmanin.
Non, c'est la première fois qu'il le reconnaît. C'est la première fois que le président de la République le reconnaît. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin et faire des immigrés des boucs émissaires. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État est quand même le garant de l'unité nationale. Et sur ce plan-là, je lui ai trouvé un ton nouveau, quand même, un peu nouveau. Bon, tu as raison, quand tu prends au pied de la lettre ce qu'il a dit sur le lien existentiel en réalité, il n'a pas voulu reconnaître ex abrupto le lien existentiel, mais il a reconnu un État. L'immigration incontrôlée n'est pas, et c'est un fiasco. Et d'ailleurs, sur le plan de l'OQTF, c'est un fiasco total. L'année dernière, 7771 OQTF, combien ont été reconduits chez eux? 22. 22 sur 7100, c'est un fiasco total. Mais il a, pour la première fois, il n'a pas nié la réalité. Je trouve qu'il a franchi un pas quand même.
Mais c'est encore pire. Alors, je vais rajouter juste une phrase. Il a dit après quelque chose d'accablant. Il a dit, attention, je maintiens les 100%. Hein, le fameux chiffre qu'il avait donné à Valeurs Actuelles, 100% seront effectivement expulsés. Mmh. Mais il dit, on va s'attaquer effectivement à ceux qui troublent l'ordre public, c'est-à-dire ceux qui ont déjà ou un casier, etc. Ça veut dire qu'on ne va pas s'attaquer aux 100%, on va s'attaquer peut-être à 5% des 100%. Et par exemple, la meurtrière de Lola, qui était, elle, n'avait pas de casier, n'avait pas de rapport, eh bien, elle ne sera pas concernée. Ceux qui n'ont pas fait déjà délit sur le territoire ne seront pas, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
Bah, et là, c'est en ça l'occurrence, que... elle a commis un crime, donc si elle
oui,
sera
elle,
concernée.
Elle, maintenant, mais je parle de tous ceux qui sont potentiellement.
Oui, mais avant, elle n'était pas criminelle avant d'avoir commis un acte, un crime quand même.
Catherine, ça vous inspire quoi tout ça?
Ben, moi, ça m'inspire que le président a fait du en même temps. C'est-à-dire que chacun y pouvait, la gauche y trouvait ce qu'elle pouvait chercher, la droite, si elle écoutait, elle pouvait elle aussi.
Donc on en vient à la politique.
On en vient à la politique et moi, je l'ai trouvé pas mal, mais si vous voulez, je n'étais pas en attente d'une parole présidentielle parce qu'il a déjà parlé il y a 15 jours et puis pendant une heure. Heureusement, c'est une heure, hein, ce n'est pas deux heures et on se dit merci.
Une heure dix, oui.
Heureusement, pas plus. Bah,
bon. Caroline Roux tient les timings.
Tient les trucs,
hein,
parce elle dit, j'aimerais bien pouvoir vous poser des questions parce qu'il déroule. Oui. Bon, alors il avait un message.
Il y avait un graphique.
Moi, ce qui me gêne, c'est quand même... Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire? Après ça, on n'en sait rien. Il dit, bien sûr, je suis déterminé et je suis ça. Moi, je crois qu'il paye le fait d'être arrivé au pouvoir, d'avoir été réélu, ce qui est un exploit, après le premier exploit d'il y a 5 ans, mais en réussissant à ne faire ni campagne pour la présidentielle, en ne disant pas ce qu'il voulait faire, il a juste sorti 65 ans, et alors, parce que c'était Colère qui lui avait dit, il faut le dire, bon, il n'y a pas réfléchi.
Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée.
Et il n'a rien dit pour les législatives, il ne s'est pas engagé, il n'a pas demandé aux Français de les élire, il n'a pas dit ce qu'il voulait faire, et avant même que les résultats soit connu, il a nommé une Premier ministre de gauche, alors que la majorité était de droite. Bon, donc pour les gens, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le pire, c'est pas qu'on se dit qu'il n'est pas bien, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il veut faire. Et quand il parle, je dirais qu'il n'a pas, il est intelligent, on peut dire qu'il a une intelligence supérieure, mais qu'il n'a pas, ce qui rassure, c'est ce fluide de l'autorité dont on se dit... Voilà, il y a un patron qui sait où il va. Voilà, c'est tout.
Alors, moi, pour tout vous dire, le soir du premier entretien, le 12 octobre dernier, je me suis dit que ce début de second règne du président de la République ressemblait à son crépuscule. Mais...
On va mettre du Wagner, là.
Mais il est. Moi, je me suis posé la question en disant quelle était sa nouvelle marque de fabrique. Bon. Mais après sa deuxième émission, celle donc de la dernière, du 26 octobre, j'ai trouvé qu'il a enfin délivré quand même une feuille de route tardive, c'est vrai, mais qu'il a levé le voile sur une partie de ses intentions. La nécessité de faire des réformes difficiles, très difficiles.
Ça, il l'avait déjà dit 27 fois.
Celle de la responsabilité budgétaire face à la démagogie des oppositions, on va y revenir. Et puis l'appel aux républicains, avec pour la première fois l'ancrage d'une droite modérée. C'est vrai qu'il répondait là. À l'interview de Nicolas Sarkozy.
On va y venir.
Ça, c'est autre chose. Alors,
attends,
on n'a pas parlé encore.
On attend.
Non, mais on a entendu ton réquisitoire et le réquisitoire de Carrérou.
Et toi, tu es le défenseur.
Et moi, je ne suis pas le défenseur.
Avec Michel.
Je dis que c'est beaucoup plus nuancé.
C'est très équilibré.
Voilà.
Alors, vous savez quoi? On va marquer une pause et on se retrouve juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta sont les grandes voix du samedi matin sur Europe 1. Michel, on revient sur, j'allais dire, l'audibilité. Ça existe, ça, comme mot dans
le
dictionnaire?
Voilà, oui, ça existe. Parce que moi, j'ai trouvé que dans une première partie, Emmanuel Macron était quand même, en disant toutes ces réformes, progrès, etc., était quand même un peu ennuyeux et difficile à suivre. Et je pensais, de ce point de vue-là, à la façon dont Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il annonçait son programme économique, lorsqu'il était ministre des Finances, savait à la fois avoir un talent et une proximité, et à la fois donner ses mesures dans l'ordre exact.
C'est déjà dû en même temps.
Bref. Non, mais j'ai trouvé... d'ailleurs, il y a des comparaisons, on peut faire des comparaisons entre Valéry Giscard, on en a beaucoup fait. Bon. En revanche, j'ai trouvé que dans la deuxième partie, Emmanuel Macron reprenait du poil de la bête dans la dernière demi-heure.
quand il s'est mis en colère.
Et notamment, coup, oui. effectivement, quand il s'est mis en colère. Mais surtout, tout était quand même dans ce qu'il a dit dès le début, mais qu'on n'a pas entendu ni mis dans le contexte, mais après, on l'a compris, qu'il était, lui, pour le mérite, pour le travail. Et ça, c'était le premier clin d'œil, tout de même, à l'union de la droite et à sa proximité avec la droite. Donc, au fond, il a été assez clair dans son discours, pour la première fois, un peu ennuyé au début, moi j'ai trouvé, même très ennuyeux, et assez efficace à la fin.
Vous en venez vous en venez au fait, ça veut dire qu'il a entendu le message de Nicolas Sarkozy dans le JDD dimanche dernier.
Et sur la politique, au fond, on retient le coup de gueule quand même contre la NUPES, cette alliance contre nature,
avec le RN.
L'alliance et la main tendue à la droite. Mais ça, il l'a fait, et c'est la première fois qu'il le fait comme ça.
Oui, Catherine.
Moi, quand je t'entends dire qu'il était un peu ennuyé après, puis qu'il s'est rattrapé, ça me faisait penser à Françoise Giroud, qui disait aux journalistes, mais quand on fait un papier, tout de suite, dès la première phrase, il faut lancer, parce que à quoi ça sert d'avoir du talent à la dixième si le lecteur est déjà parti. Eh bien, moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé avec le président Macron. Mais moi, j'ai bien aimé sa colère, tout d'un coup, parce qu'on a dit qu'elle était surjouée. Non, là, je crois qu'il l'a joué vraiment.
Il était sincère ?
Oui, ça l'a vraiment agacé. Alors, comme ça l'a vraiment agacé, il a été sincère. Mais où il dit qu'il y a eu un changement du texte eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Toutes les enquêtes qui ont été faites, on a demandé à tous les participants de la NUPES si oui ou non on avait changé le texte. Il n'a pas été changé. Ça a été dit par d'autres socialistes qui ont fait courir des bruits. Il y a eu, c'est vrai, une pression de François Hollande qui a essayé de dire aux socialistes, mais attendez, mettez une phrase pour être sûr que le RN ne viendra pas, parce qu'il essaie de jouer un rôle, François Hollande, parce qu'il veut revenir. Hein, d'ailleurs, il fait tout, il est invité partout.
Tout le monde veut revenir.
Tout le monde, il veut revenir. Mais en tous les cas, l'accusation d'avoir changé le texte pour que le RN vote, c'est pas vrai. Voilà.
Sauf qu'on n'en saura jamais rien. On n'en saura jamais rien. Personne ne peut l'annoncer, personne ne peut l'avouer. Et ça se passe.
Et alors ton sentiment, conviction.
Je pense que la colère était une colère théâtrale. Mais je ne lui reproche pas une colère théâtrale. C'est de bonne guerre.
Moi, je trouve que ça faisait du bien de voir un peu en colère.
Il y a des colères saines, comme disait l'autre.
Absolument. Il peut y avoir, pour une partie de l'électorat, ça peut paraître cohérent de dire oui, c'est scandaleux au fond que ces gens-là qui n'ont rien en commun se mettent ensemble pour voter. Bon, je dirais quand même attention aux institutions de la Ve République. Nous ne sommes pas en Allemagne où pour faire une motion de censure pour renverser au Bundestag un gouvernement, il faut être d'accord sur une politique alternative. Ça, c'est le système allemand. Le système français, il n'y a aucune obligation de dire entre l'extrême gauche ou l'extrême droite ou peu importe l'extrême centre, ils peuvent parfaitement se mettre dans un même vote pour renverser un gouvernement. C'est ça l'esprit. Pourquoi c'est l'esprit des institutions du général de Gaulle ? Parce que ça veut dire ils se mettent ensemble, bon, on renverse le gouvernement et ça sera éventuellement à ce moment-là dissolution et au peuple de trancher. Donc moi je ne suis pas choqué et je ne prends pas des airs de vierge effarouchée pour dire, oh là là, le Front National, le Front National de Marine Le Pen qui vote la motion. Non, simplement, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a qu'un acteur qui ne se dévoile pas, puisque les autres se sont dévoilés dans ce vote, c'est les LR. Les LR, écoutez, je vais le dire, je me disais, je ne vais pas dire ça à la radio, je vais dire, ils ont le derrière entre deux chaises. Ils ont le cul entre deux chaises, comme on dit, dans les foyers. Parce qu'ils savent que s'ils votent, eux, une motion...
Pas que dans les foyers.
Il n'y a pas que dans les foyers. Mais s'ils votent une motion de censure, n'importe laquelle d'ailleurs, les LR, effectivement, le gouvernement tombe. Et là, on est dans un cycle, il y a des élections, et ils ne sont pas sûrs, je parle que des LR pour l'instant, ils ne sont pas sûrs de revenir vainqueurs. Donc, pour l'instant, le meilleur allié de Macron, et il a eu raison de piquer la colère, ne serait-ce que pour ça, le meilleur allié du président de la République, qui n'a pas de majorité, mais qui a une majorité relative, c'est des LR qui sont ligotés par leur empêchement structurel voter une motion de censure.
Le moment n'est pas le bon.
Parce que c'est pas le cas pour l'instant.
Absolument, ils sont en pleine campagne électorale pour désigner le chef du parti. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, ils ne peuvent pas se décider. Or, leur électorat est divisé en deux, partagé en deux. On l'a vu dans le très bon d'ailleurs, très analytique, très pointu sondage de l'IFOP pour le JDD. 63% de leurs électeurs sont pour une alliance avec le président de la République. Et les autres, sont pour des accords avec les députés de Marine Le Pen, avec le Rassemblement National. C'est en cela que ton image d'être entre deux chaises, évidemment,
est juste.
Absolument.
Donc, soit c'est à droite toute, soit c'est combiné avec un président qui a une aile gauche.
Et il y a un reliquat, notamment chez les chefs, qui refusent d'être avec les uns ou avec les autres.
Ah ben, y a toujours ceux qui se prononcent
oui,
pas.
Oui, non, c'est pas ça, parce qu'ils veulent exister, ils veulent survivre, ils veulent exister en attendant 2027, parce que rien n'est dit par rapport à 2027. Quel est celui qui sortira du pot? On ne sait pas, de toute façon. Est-ce que ce sera un républicain ou tout à fait autre chose?
Ou un hybride du style Édouard Philippe.
Et c'est la raison pour laquelle, hybride, on est en plein, déjà avec les voitures.
Oui.
Peut-être
c'est une incidente, mais ça m'étonnerait qu'on attende 2027.
Oui. Mais c'est vrai que pour les motions de censure, ça pose des problèmes à tout le monde, parce que en admettant même qu'on n'ait pas vraiment touché des textes pour que ça soit acceptable par le Parti Socialiste, Olivier Faure a quand même dit « Ah, mais attention, on ne va pas voter systématiquement. » D'accord, mais il a dit « On ne va pas non plus. » Ça l'a marqué, puisqu'il a dit « On ne déposera pas forcément des motions de censure. La prochaine fois, on ne votera pas avec. » Et d'ailleurs, la prochaine motion de censure, les socialistes ne votent pas. Ouais. Ce qui prouve quand même que ça a fait des remous parmi eux et parmi les socialistes d'avoir voté la motion du Rassemblement National.
Quand même qu'Olivier Faure, qui tape très fort sur le président de la République, c'est pour masquer son propre embarras.
Ah oui, bien sûr.
La manière dont il s'est laissé,
avec un cynisme total,
ceux qui te donnent des leçons en permanence, notamment les socialistes d'Olivier Faure, contre le Rassemblement National, et qui en même temps ont joint leur voix au Rassemblement National, même si on nous dit maintenant qu'ils ont été surpris, pris en embuscade.
C'est-à-dire que la charge là, du président de la République a été quand même comprise par eux, en tout cas. La charge du président de la République a été comprise. Ils ne referont pas si facilement un vote avec le Rassemblement National.
10h28, une pause et on revient juste après avec les grandes voix.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1.